parler de voyages, de voyages intersidéraux, notamment par le biais d'Absalon, puisque le voyage est au centre du roman. Et on va pouvoir discuter avec Pierre et Daniel de tout ça, sachant que Pierre Bordage est un romancier qui aime bien le voyage.
Globalement, oui.
Hein, globalement, tu en mets souvent dans tes romans. Quoi.
Ouais, dès qu'il y a du space opéra, il y a du voyage, ça c'est évident.
On va peut-être commencer par Absalon. D'abord, quelle est l'idée de départ et comment est-ce que tu as imaginé ce grand vaisseau qui part?
Il faut que j'en qu'il y a longtemps, fort longtemps derrière.
15 ans.
15 ans. Bizarrement, je n'ai pas du tout pensé au vaisseau d'abord, ni au voyage, ni à quoi que ce soit. J'ai pensé à la rédemption. Puisque le roman raconte l'histoire d'une rédemption d'un homme qui est un criminel au départ, un criminel, un monstre. Hein. C'est vraiment un psychopathe, un tueur en série, dont l'activité de décerveler des femmes. Pour ça, oui, il arrache pour ça, oui. Bon. Un petit peu de problème quand même psychanalytique, garçon. Et donc je voulais voir si on était capable d'aimer ou de partir avec ce personnage-là pendant 500-600 pages et d'aimer ce personnage-là. Et comme souvent dans mes romans, comme je ne fais pas de plan, ne prévois pas grand-chose, naturellement, l'idée du voyage s'est imposée parce qu'il me fallait un long temps d'observation du personnage, et donc tout l'environnement du personnage s'est mis en place tout seul, et donc l'idée du vaisseau, du voyage, de partir d'une planète pour arriver à une planète, qui est aussi un thème de changement comme la métamorphose du personnage, il y avait aussi un changement de monde, d'univers. Et donc, bah, tout s'est mis en place. Pourquoi est-ce qu'on était obligé de partir? Parce que l'étoile menaçait d'exploser. Parce que j'ai appris qu'elle allait exploser finalement, même chose, mais plus. Bon, elle explosait. Elle menaçait d'exploser. Et donc, il fallait trouver un nouveau monde pour poursuivre, continuer avec la civilisation. Et les concepteurs du voyage envoient deux populations expérimentales, enfin, à bord d'un vaisseau expérimental qui s'appelle Estérian. Qui est deux populations totalement antinomiques. C'est-à-dire une population de criminels, dont fait partie mon personnage, bien sûr, et une population pacifique, très religieuse, très rigide. Et donc on envoie ces personnes dans l'espace, parce que d'une part ils gênent sur la planète d'origine, et donc on préfère se débarrasser de cela, pour voir comment cela va se passer le voyage, etc. Et donc, après, ben, il faut trouver comment on voyage, comment on met deux populations de 5000 personnes dans un vaisseau, quelle taille du vaisseau il faut, combien d'oxygène et de nourriture, mais ça, Daniel me précisera tout à l'heure, parce qu'il s'est très bien fait, il a fait les calculs, pas moi, je vous rassure. Ce qui se passe et donc, ça devient un vaisseau génération, c'est-à-dire une arche de Noé du futur, qui est chargée de préserver une espèce. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir dans un milieu confiné comment les personnages peuvent évoluer, et donc mon personnage de criminel, comment il peut évoluer, et ce qui le fait évoluer principalement, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire, c'est la rencontre d'une femme de l'autre peuplade, parce que normalement, de l'autre population du vaisseau, parce que normalement, il y a une sorte de cloisonnement qui interdit aux gens de se rencontrer, ça va être le regard d'amour d'une femme, tout simplement. Lui qui tuait les femmes, il va obtenir sa rédemption par une femme aussi. Voilà. Après,
et au bout du compte, la plus pacifiste des populations n'est pas celle qu'on croit au départ.
Oui, mais ça, après, on pourra développer sur les croyances religieuses et la réalité des gens, etc. Bon. Je voulais aussi montrer que l'idéalisation, le dogme, ne protégeait pas de la barbarie. Ça, c'est pas évident, et que finalement, les barbares, c'est pas toujours ce qu'on croit. Mais ça, c'est intéressant de mettre tout ça dans un milieu confiné, le vaisseau, parce que donc, on ne peut pas sortir, ça crée une ambiance très particulière, donc très tendue finalement. Et donc tous les sentiments s'exacerbent. Et dans cette exacerbation-là, il y a évidemment des grandes possibilités de changement, de bouleversement. Et c'est ça que je voulais illustrer principalement.
Alors, on va aborder la partie un petit peu technique, hein, vaisseau générationnel.
Et ça tombe bien parce que là, moi, je ne savais pas comment il marche un vaisseau.
Alors, comment est-ce qu'il pourrait marcher le vaisseau de Pierre Bordage qui emmène une population à l'autre bout de la galaxie?
Il y a plein de façons d'amener un vaisseau d'un point A à un point B de la galaxie. Le problème, c'est qu'en général, toutes les méthodes de propulsion prennent beaucoup de temps. Pierre, dans le roman, propose de propulser le vaisseau avec de la fission nucléaire.
Ouais,
c'est pas trop comment, mais on va imaginer que ça marche. Alors, de fait, il a raison. Il que le vaisseau voyage à peu près à un dixième de la vitesse de la lumière.
Ouais.
Et on peut montrer que, effectivement, avec de la fission nucléaire, enfin de la fusion nucléaire, c'est la vitesse.
Fusion, oui, je crois.
La fusion, ouais. C'est la vitesse à laquelle on peut arriver au mieux. Donc.
Pas mal.
Alors, ça, c'est très bien tombé. En soi, c'est assez technique. On peut montrer par exemple que si vous prenez un vaisseau qui se propulse avec de la chimie, des réactions de combustion, des choses comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à faire un vaisseau qui va plus vite que 2000 km par seconde. Ce n'est pas possible. 2000 km par seconde, pour faire 12 années-lumière, ça prend quand même quelques millions d'années. Ça fait plus qu'un vaisseau génération à ce stade-là, c'est quasiment une petite planète qui se met à se déplacer. Donc la propulsion à fusion nucléaire est effectivement une possibilité assez crédible, avec la difficulté qu'il y a d'avoir embarqué au départ tout le carburant nécessaire pour faire avancer le vaisseau. Et forcément, plus on embarque de carburant, plus le vaisseau est lourd, plus il est lourd, plus c'est dur de le faire avancer. Alors il y a une solution qui a été proposée par Poul Andersen à ça, dans un roman qui s'appelle Taux Zéro, et qui est sorti, qui a été traduit très récemment en français, qui est de récupérer le carburant dans le milieu interstellaire. Que le milieu interstellaire, c'est pas très vide, en fait. Il y a quand même une petite centaine de particules par centimètre carré. Et Poul Andersen propose de récupérer toutes ces particules avec un grand champ magnétique, de les amener jusqu'au vaisseau et de se servir de ces protons du milieu interstellaire comme source de combustible. Alors on peut montrer que ce qui marche pas très bien là-dedans, c'est que la réaction de fusion entre deux protons a un temps caractéristique d'un milliard d'années. C'est une réaction qui est très lente. C'est ce qui fait que le Soleil peut briller 10 milliards d'années. Si le Soleil brûlait plus rapidement que ça les protons, il aurait explosé déjà il y a quelques millions d'années. Donc il y a pas mal de difficultés techniques, effectivement, dans la question de la propulsion. Et la fusion nucléaire reste une option envisageable.
Tant mieux. Est-ce qu'en termes de taille, et tout du moins de... Lorsqu'on imagine un vaisseau comme ça partant vers une autre planète, est-ce que combien tu as de personnes à bord? 100 000 ?
10 000.
10 000, pardon.
Plus quelques moncles.
Plus quelques moncles dissimulés par ci par là.
Est-ce que c'est réalisable, crédible en termes de taille, 10 000 personnes sur un vaisseau?
Je pense qu'avec les moyens technologiques actuels, non. En même temps, avec les moyens technologiques actuels, arriver à un dixième de la vitesse de la lumière, c'est pas crédible non plus. Concrètement, si on voulait prendre un vaisseau de 1 000 tonnes, un petit vaisseau, et le ramener à un dixième de la vitesse de la lumière, il faudrait à peu près toute l'énergie produite sur Terre pendant 100 ans. Aujourd'hui, on n'y est pas. Hein. Réussir à accumuler toute cette énergie et à l'utiliser pour faire avancer un vaisseau, c'est pas demain la veille. Alors peut-être que ce jour-là, on sera capable de faire des vaisseaux de cette taille-là. Je ne connais pas de limite théorique à la taille d'un vaisseau. Alors effectivement, il y a l'idée de construire le vaisseau directement en orbite, plutôt que de le construire quelque part dans la campagne française. Ce qui a le grand intérêt d'avoir à éviter de payer le coût énergétique de faire sortir le vaisseau de l'attraction gravitationnelle au départ. Sur Terre, par exemple, pour faire sortir quelque chose de l'attraction terrestre, il faut balancer l'objet à 11 km par seconde. Les fusées que vous voyez partir de Cape Canaveral partent à peu près 11 km par seconde. Plus la planète est grosse, et plus c'est compliqué. Là, au moins, on s'affranchit de ce coût énergétique.
Est-ce que tu te souviens comment tu as organisé un petit peu ces deux sociétés?
Oui, mais il y a deux parties dans le vaisseau qui sont cloisonnées, comme je disais, qui sont séparées par des labyrinthes, je ne me souviens plus très bien. Et je pense que les concepteurs du projet ont prévu que les populations se rejoindraient, mais pas aussi rapidement que les populations se rejoignent, parce que sinon il y a toujours un effet aléatoire avant tout, et finalement elles se rejoignent beaucoup plus tôt que prévu. C'était simplement deux compartiments scindés, avec d'un côté les cropped et de l'autre les decks, c'est-à-dire les prisonniers criminels de la planète, qui s'organisent entre eux en fait, en quelque sorte, avec un système de nourriture qui est une distribution automatique de nourriture générée par des cuisines mystérieuses. Les plateaux apparaissent à intervalles réguliers, tout ça. Donc, mais évidemment, c'est sans compter la curiosité humaine qui veut toujours aller voir au-delà de son espace. Et là, en l'occurrence, comme il y a un vaisseau qui limite l'espace, c'est découvrir le vaisseau, toutes les possibilités du vaisseau, enfin tous les recoins du vaisseau, évidemment, cette curiosité humaine va pousser les populations à se rencontrer. C'est ça qui m'intéressait, je voulais les faire se rencontrer, parce que dans mon idée, c'est la belle et la bête, c'est Absalon et Lula, ils vont se rencontrer, c'est l'objet du roman, c'est une histoire d'amour en fait. Tous les romans sont des histoires d'amour, y compris les romans de science-fiction. Et celle-là, bah, se passe à l'intérieur d'un vaisseau, et je ne voulais pas la faire trop traîner non plus, parce qu'il serait trop vieux à l'arrivée. Ouais, parce que le voyage dure 120 ans, en fait, dans l'espace, ce qui fait assez long. Donc c'est un vaisseau, ça devient un vaisseau de génération, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations, des mariages qui se produisent, des naissances, et donc un développement de la population. Voilà, je sais pas si ça répond à la question.
Est-ce que c'est important, quand tu imagines un vaisseau générationnel, d'imaginer le cadre un petit peu, comment ils se nourrissent, comment ils vivent
Ouais,
oui, ben comment, parce que, comment tu t'y prends,
parce que toutes les questions se posent, mais c'est de la même façon, un roman de science-fiction, c'est un roman historique aussi. Quand j'ai fait L'Enjeu mineur, qui traite de la Révolution française, des guerres de Vendée, etc., il y a sans arrêt les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se vêtent, comment ils se lavent, comment ils se déplacent, combien de temps ça prend pour aller danger à Paris, par exemple, en diligence, où est-ce qu'on s'arrête. Et de la même façon qu'en science-fiction, quand vous créez un cadre, toutes ces questions se posent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils dorment? Comment recréer un effet de jour artificiel pour différencier jour et nuit, pour avoir des périodes de cycle, sommeil, veille-sommeil, etc.
Comment avoir un effet de gravitation pour éviter d'avoir des gens qui flottent?
Comment éviter les... Alors ça, c'est un des problèmes, l'effet de gravitation, c'est-à-dire que normalement, il n'y a plus de gravitation dans un vaisseau et donc on flotte. Et donc, il faut trouver des systèmes qui sont les GAV. Je ne sais plus si dans cet argent, les GAV, c'est les générateurs artificiels de gravité. Ne me demandez pas comment ça marche. Je ne sais rien. Mais ça génère un truc très, très dense qui crée une gravité artificielle. Donc, toutes les questions se posent. Et au fur et à mesure que les questions se posent, j'essaie d'apporter des réponses. Puisqu'on est dans un cadre de science-fiction donc, où il y a le mot science et donc on doit être à peu près crédible, doivent à peu près être cohérentes. Enfin, les solutions. Donc je cherche des solutions les plus cohérentes possibles, bien que ce ne soit pas l'objet principal du roman, parce que l'objet principal du roman, ce sont les personnages, comme tout roman finalement. Mais on les a mis dans un cadre précis. Je ne sais pas si vous envoyez quelqu'un en Amazonie, mais il va se heurter à un paysage particulier, à des conditions particulières, il va falloir qu'il s'adapte. C'est la même chose dans un vaisseau, ce sont des conditions extrêmes, ce qui, comme je disais tout à l'heure, exacerbe les tensions et donc révèle les caractères. Et c'est ça le but principal du roman. Après, tout l'environnement, c'est des questions et des réponses le plus crédible possible, le plus cohérent possible, même si on est obligé, par définition, puisque, comme disait Daniel, on n'a pas de vaisseau qui vont à cette vitesse-là, on est obligé d'inventer, quoi.
Et je pense que par rapport à ça, l'enjeu de la lecture scientifique, c'est pas de distribuer des bons points ou des mauvais points, ou de dire c'est crédible, c'est pas crédible. Sinon, on va tous traiter.
Non, mais une histoire de roman,
c'est pas crédible. Ouais. Bon. Le but, c'est effectivement de voir à quel point est-ce qu'à partir des règles qu'on s'est données au départ, on fait un ensemble qui se tient. Et puis, c'est aussi l'occasion de réfléchir à des thèmes qui sont assez jolis en physique.
Oui.
Et d'avoir l'occasion d'aborder comme ça de la vulgarisation.
Oui, tout à fait. Je pense. C'est. Moi, je ne suis pas scientifique de base, donc je suis un littéraire. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le mot. Pourquoi j'ai fait de la science-fiction? Je me suis toujours posé la question. Quoi. À un moment, pourquoi je me suis lancé dans un roman de science-fiction plutôt que de faire du roman réaliste, ou du roman psychologique, ou du roman du polar, ou quel est l'intérêt de la science-fiction? Et l'intérêt, il est triple, à mon avis. Le premier intérêt, c'est le dépaysement. C'est-à-dire, on propose au lecteur un merveilleux voyage. Un voyage ailleurs, c'est-à-dire décoller du réel au premier lieu de science-fiction. S'il m'a plu ces chroniques martiennes, c'est parce qu'il m'a décollé instantanément du réel. Ce type-là, Bradbury, qui est décédé l'an dernier, cette année, m'a décollé de mon réel en quelques phrases. Et ça, j'adore ça, c'est un effet qu'on appelle l'effet vertige, que je recherche beaucoup dans la lecture et dans l'écriture. Premier point. Deuxième point, ça permet de poser des problèmes, parce que le détour par l'imaginaire permet de mieux réfléchir sur le réel. D'ailleurs, aucun autre genre littéraire ne parle du présent. Même les romans réalistes, parce que quand un roman réaliste est écrit, il est écrit au passé déjà. C'est passé. Il faut se projeter dans le futur pour parler du présent, paradoxalement. Et donc, ça amène une réflexion beaucoup plus pertinente sur les problèmes qui traversent notre siècle, notre civilisation. Donc, il y a un effet loupe qui est très intéressant dans la science-fiction, c'est-à-dire qu'on pose la loupe sur le problème, on le grossit, on l'étire, Et ça permet de réfléchir et d'amener une pierre à la réflexion. On est dans un siècle où les technologies avancent très 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 vite et où il n'y a plus le temps de la réflexion. Tu vois, le débat sur les OGM, il est mal posé, quoi, à mon avis. Et il a intérêt d'être posé le plus rapidement possible et bien, dans tous ses aspects. Et le troisième intérêt de la science-fiction, c'est l'interrogation philosophique. Et celle-là, je pense, enfin c'est mon avis, mais après d'autres auteurs ne partagent pas forcément cet avis, c'est de reposer les questions qui ont déjà été posées dans les mythologies. C'est-à-dire que ce sont des grandes questions humaines qui traversent le temps. Je prends un exemple très simple, hein, c'est le mythe de Gilgamesh, donc un mythe sumérien, des premiers mythes connus, qui traite simplement l'histoire de l'immortalité. L'immortalité était vraiment un grand thème de science-fiction. Et ce thème-là, il est posé depuis la nuit des temps. L'homme, prisonnier de l'espace-temps, se demande pourquoi il est prisonnier de l'espace-temps et veut échapper à l'espace-temps. Donc, il y a toutes les mythologies qui posent déjà cette interrogation-là. Et donc, cette littérature-là, pourquoi finalement, alors que je ne suis pas scientifique, science-fiction, j'aurais pu faire une fantastique ou un autre genre imaginaire, parce qu'elle associe ces trois éléments qu'on ne retrouve dans aucun autre type de littérature, à mon avis. Vous avez toujours un truc qui va correspondre, 2 sur 3, mais les 3 sur 3, c'est très très rare, même c'est impossible, dans un autre genre que la science-fiction. D'où sa richesse, et moi je me suis un peu éloigné du sujet. Mais...
Non, c'est très bien.
Pour finir de s'éloigner du sujet, alors je me retrouve pas mal dans ce que tu dis, surtout par rapport à la capacité de la science-fiction de ramener auprès du public des thèmes scientifiques qui sont sinon loin de ce qu'on enseigne à l'école et de ce qu'on a l'occasion de voir ailleurs. Et ça me semble extrêmement important de faire en sorte que des thèmes comme la relativité, comme la mécanique quantique, qui sont régulièrement abordés dans les romans de science-fiction, pas toujours correctement, pas toujours rigoureusement, mais peu importe au fond, sont des thèmes qui sont rapprochés du public par cette lecture et par l'utilisation qu'on a faite dans les œuvres. Et je crois que la question philosophique que tu soulevais à la fin, c'est aussi une question qu'on se pose régulièrement en science, et on cherche aussi des formes de réponse à quelques-unes de ces questions.
Est-ce que parfois les auteurs de science-fiction apportaient un autre éclairage sur la science? Je triche un tour, on en a parlé ensemble.
Ça arrive, bien sûr. Je pense que si on veut faire les choses historiquement, il faut commencer par parler de Jules Verne. Il y a des questions de voyage de la Terre à la Lune et de voyage au centre de la Terre. À l'époque, c'était de la science-fiction. Et il y a effectivement un développement qui va main dans la main parfois de la science et de la science-fiction. Et c'est le cas en particulier avec les trous de verre, qui sont maintenant très souvent utilisés en science-fiction, qui au départ ont été développés par un astrophysicien américain qui s'appelle Kip Thorne pour donner un coup de main à un ami à lui qui s'appelle Carl Sagan et qui voulait écrire un livre de science-fiction où deux civilisations très distantes communiquaient en s'envoyant des messages dans un trou de verre, pardon, dans un trou noir. Et Kip Thorne a dit à Carl Sagan, mais c'est pas ton truc, tient pas, quelque chose qui rentre dans un trou noir ne peut pas en ressortir plus loin. Par contre, si on prend les équations de la relativité générale et qu'on considère cette distribution de masse, alors on peut imaginer un machin qui va relier deux zones de l'espace-temps. Et c'est comme ça qu'au départ, qu'est né le concept de trou de verre. Donc effectivement, des liens et des allers-retours entre science et science-fiction sont relativement monnaie courante.
Alors justement, parce que tu as utilisé, toi, des trous de verre, peut-être peux-tu nous expliquer ce qu'est un trou de verre, et puis après Pierre nous expliquer quand est-ce que tu l'as utilisé.
Je ne suis pas sûr de réussir à faire ça après correctement, c'est pas mon domaine d'expertise, donc là, ce que je dis reste sujet à critique. L'idée globalement d'un trou de verre, c'est de réussir à relier par une espèce de court-circuit deux points distants de l'espace-temps. On se rend compte qu'en supposant que l'univers a une certaine forme de courbure, j'imagine que vous avez déjà vu des images comme ça, on imagine que l'univers est courbé, que nous vivons dans l'espace-temps qui correspond à la surface de cette courbure, et qu'il y aurait la possibilité d'effectuer un percement au travers de l'espace-temps pour rejoindre deux points distants dans l'espace et dans le temps par un raccourci. Alors les trous de verre posent un certain nombre de problèmes. La relativité générale prédit à elle toute seule que ces trous de verre auront une durée extrêmement courte, normalement trop courte pour que quoi que ce soit puisse les traverser. Cette durée est encore raccourcie par la question des fluctuations qui peuvent tomber dans le trou de verre et contribuer à sa destruction. Et la seule possibilité pour réussir à le stabiliser, donc à l'exploiter, ce serait d'utiliser des grandes quantités d'une matière exotique qui aurait une énergie masse négative. Le problème, c'est qu'on n'a absolument aucune preuve, aucune trace dans l'univers de quoi que ce soit de ce genre-là. Pour l'instant, c'est juste un délire de mathématicien. Donc, qu'on soit clair, c'est ni de l'antimatière, ni de la matière noire, ni de l'énergie noire. C'est encore autre chose. L'autre problème, enfin, quand bien même on serait capable d'avoir cette matière-là, c'est qu'on est complètement incapable d'imaginer comment, même en ayant des stocks de ce truc-là sous la main, on pourrait construire effectivement le trou de ver. Bref, c'est une solution très pratique qui permet de faire plein de choses, entre autres de voyager dans le temps, mais qui pour l'instant reste simplement des équations sur un papier.
Pourquoi j'ai, comment j'ai utilisé le trou de ver? Bah, le mot, déjà, on a envie de mettre sa tête dedans. Le trou de ver, on a envie de voir ce qu'il y a dedans. Même si, puis comme on fait appel, à, je pense dans la science-fiction, j'ai l'impression que l'auteur dont je fais, enfin, en tout cas c'est la façon de bosser, je fais plus appel à la culture scientifique ou à la vraie vérification scientifique. C'est-à-dire que le trou de ver évoque des choses pour moi, et je me sers du trou de ver parce que ça m'évoque des trucs marrants qui sont des raccourcis dans l'espace. Après, comment ça fonctionne, j'en sais strictement rien, mais j'ai lu le mot, j'ai lu le concept quelque part, et ayant lu le concept quelque part, j'ai tout de suite envie de l'utiliser comme quantique, on a toujours envie de le mettre partout parce que ça fait bien. Et puis que c'est pratique, il y a beaucoup d'incertitudes, donc c'est cool. Mais c'est juste plutôt de la culture scientifique, même pas de la culture scientifique, c'est même de la légende scientifique presque. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas. Quand je vois trou de ver, je vais pas aller vérifier comment exactement est un trou de ver ou tout ce que tu viens de dire là, mais ça va être. Ouais, je vais utiliser ce truc-là parce que ça me plaît bien. Et quand on a parlé dans des revues et que ceci et que ça va, quoi. Mais c'est, après, il y a une grande part d'imaginaire. Forcément, la science-fiction, on est obligé d'imaginer. Comme on disait tout à l'heure, on n'a pas les vaisseaux spatiaux n'existent pas. Nous sommes pour l'instant. Paraît-il que les hommes ont mis pied sur la Lune en 69, c'est très controversé. Mais ouais, voilà, on a été sur la Lune, c'est notre satellite, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. La prochaine colonisation, c'est Mars.
On a quand même réussi à lancer des sondes sur Mars.
Oui, des sondes sur Mars, mais enfin.
Ça reste la porte à côté.
L'humain, oui, on est dans le système, et puis l'humain n'y est pas encore allé, quoi. Enfin, il y a une préparation, je pense qu'en 2050, il y aura vraiment une exploration martienne. Donc, on est obligé de faire marcher l'imaginaire dès qu'on sort du système solaire. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a encore beaucoup de mystères dans l'univers. Et évidemment, le romancier, c'est celui qui s'installe dans le mystère. Il faut qu'il y ait du mystère pour le romancier, parce que justement, c'est ça qui va permettre de confronter son imaginaire, de développer son imaginaire. Si tout était connu. Je reprends la mythologie. L'espace dangereux, l'espace inquiétant, l'espace inconnu, c'est la Méditerranée. C'est le voyage d'Ulysse qui revient à Ithaque avec des monstres et tout un tas de choses, des dangers incroyables, un élément pas du tout maîtrisé, etc. Et donc le terrain de jeu s'est déplacé, s'est simplement agrandi dans l'espace, parce que nous avons pris conscience que nous étions un petit point dans l'univers, quelque part perdu dans un bras de la Voie lactée, et que donc ça permet l'imaginaire, quoi. Ça suscite l'imaginaire. C'est quand on regarde des atlas sur l'univers, ça donne envie d'y aller, d'aller voir tel endroit, d'aller voir tel truc. Voilà,
il faut voir là qu'il y a aussi des questions d'ordre de grandeur qui varient énormément. On parle du voyage de la Terre à la Lune ou de la Terre à Mars, c'est ce qu'on voyage interplanétaire. C'est quelques millions de kilomètres au pire. Le voyage intersidéral, ce chiffre d'ordre de grandeur, ou en parsec. Ouais, parsec, c'est 3 virgule et quelques années-lumière.
3,4 et quelques
3,82, je crois.
3,82,
peut-être. L'étoile la plus proche de nous, c'est Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, c'est un peu plus de 4 années-lumière. Ça veut dire que pour l'instant, l'objet le plus rapide qu'on ait réussi à créer, c'est la sonde Galileo, qui a été accélérée par fonte gravitationnelle pour atteindre la valeur record de 30 km par seconde. Il lui faut plusieurs millions d'années pour réussir à aller jusqu'à Proxima du Centaure. Et donc, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de temps que celles qui pouvaient exister sur les voyages maritimes. Les voyages maritimes, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans la science-fiction. C'est les mêmes champs sémantiques, on parle de vaisseau, on parle de capitaine, on parle de croisière sans escale. On parle du voyage. Effectivement, c'est les mêmes genres de mythes du voyage que peut être sur la Méditerranée. Et pour autant, quelqu'un sur une planche de bois au milieu de l'océan Pacifique, si tant est qu'il trouve de quoi boire et de quoi manger, ou qu'il se débrouille pour pêcher et pour boire, il finira en quelques années ou en quelques dizaines d'années par échouer sur un bout de terre quelque part, poussé par les courants, poussé par les vents. Il arrivera à l'échelle d'une vie humaine quelque part. Quand on est à quelques millions d'années d'une étoile, on n'est clairement pas dans les échelles d'une vie humaine. Et c'est aussi là qu'intervient toutes les problématiques du vaisseau générationnel. C'est-à-dire qu'il faut préparer des voyages qui vont mettre en place plusieurs générations.
Mais ça me rappelle quand même, par rapport au voyage et par rapport à l'immigration, les gens qui partaient d'Europe 18e, début 19e, savaient qu'ils ne reviendraient plus. Et dans l'idée du voyage interstellaire, il y a aussi cette idée qu'on ne reviendra plus jamais à son point de départ, qu'on quitte une sorte de nid, d'un berceau, un berceau et qu'on va vers un ailleurs et duquel on ne reviendra jamais, quoi.
Et ça c'est très vrai à cause de la distance des voyages, et c'est encore plus vrai à cause des effets relativistes qui ont tendance à contracter les longueurs et à dilater les durées. C'est-à-dire qu'un voyage qui fait un certain nombre de temps pour un voyageur extérieur va paraître beaucoup plus court pour celui qui voyage. C'est le paradoxe des jumeaux de l'ange, enfin, vous prenez deux jumeaux, ils ont le même âge par définition. Vous en mettez un dans un vaisseau spatial qui fait un voyage à la vitesse de la lumière ou presque, et qui revient sur Terre peu de temps après. Pour le jumeau qui est parti, il s'est écoulé un an. Pour celui qui est resté sur Terre, il s'en est écoulé 50. Il y a des effets de dilatation des temps dus au voyage quand il a lieu à des vitesses relatives.
Oui, ça, je l'ai travaillé dans les grillos célestes, dans le cycle des grillos célestes, où comme les personnages voyagent sur une énergie un peu mystérieuse qui s'appelle Kadria, qui est beaucoup plus vite que la lumière, ils savent que quand ils quitteront cette planète et quand ils reviendront, quand la Kadria les aura ramenés sur cette planète, ils ne verront plus les personnes qu'ils ont connues. Qui sont tous morts, enfin, ou qui sera passé déjà plusieurs générations. Et ça, c'est le thème de l'arrachement aussi. Enfin, c'est ce qu'on retrouve dans le space opéra, comme dans les voyages numériques invisibles, c'est l'arrachement. On quitte sa terre et on n'en reviendra plus, on laisse les êtres aimés, et on va créer une nouvelle vie. Et
Mais c'est vrai que pour autant, le voyage n'a pas le même ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on part en sachant qu'on ne reviendra pas, mais qu'on arrivera quelque part, alors que dans le voyage intersidéral, on part en sachant qu'on ne reviendra pas et qu'on va finir sa vie dans une tombe volante.
Oui, c'est ça.
Avec toute la question de comment va évoluer la mentalité aussi dans le présent en cours de route. Et je crois avoir lu il y a un bout de temps à lire, dont j'arrive pas à me souvenir du titre, où au bout du compte, le vaisseau, après plusieurs générations, arrive à proximité de sa planète de destination et les gens décident de rester à bord. Parce que ça va pas, les compagnies des bestioles, c'est sale, ici on est bien, on est au chaud et il y a tout ce qu'il faut.
Ouais. Sur voyage, dans la nouvelle origine pour l'anthologie des utopiales, là, tu as parlé carrément de miniaturisation de rétrécissement.
Oui, ouais. Pourquoi j'ai fait ça?
Lui, il s'approche de la vitesse de lumière. Et
voilà, la nouvelle raconte l'histoire d'un équipage qui travaillait pour à l'origine, c'est-à-dire au Big Bang, et donc qui va peu à peu se rétrécir. Je vais me faire allumer par le physicien. Il va se rétrécir de plus en plus jusqu'à devenir le point primordial de l'explosion. Et les personnages vivent cette miniaturisation de façon tout à fait naturelle, parce que pour eux, tout reste à échelle. Donc c'est très très improbable ce que j'ai fait.
Mais c'est-à-dire qu'il y a deux concepts. Il y a la notion de réduire les dimensions spatiales de l'objet, de regarder ce qui se passe à l'échelle de plus en plus petite.
Parce que je pensais que la vitesse, comme la vitesse. Alors, normalement, on devrait pouvoir aller vers le passé. Voilà, c'est mon idée, c'était de pouvoir aller vers le passé et d'être arrivé en vitesse. Je ne sais pas si ça marche. J'ai pas essayé. Et donc, si on va vers le passé, on va vers une réduction de l'univers, puisque l'univers, au départ, c'est rien, quoi. Et donc, le vaisseau, pour aller vers l'origine, devient de plus en plus petit, se réduit lui aussi à la dimension de l'univers, à un temps T, quoi. Un instant T. Et donc, jusqu'au bout, où il y a une sorte d'explosion, de nouveau, une explosion primordiale avec, évidemment, les traits de caractère des personnages qui sont dans le vaisseau et qui vont s'aimer de nouveau, enfin, qui vont recréer un univers avec leur propre caractère, avec leurs propres caractéristiques. Voilà, c'était ça l'idée.
Je crois que dans l'état actuel des choses, on a plutôt tendance à imaginer que le voyage dans une pièce, c'est voyage dans le futur plus que dans le passé. C'est-à-dire que sur un voyage, à nouveau, ce qui sort des jumeaux de l'ange, sur un voyage qui va durer un an, le reste de l'univers va avoir vécu plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. Alors dans les anciens modèles cosmologiques, on aurait pu avoir cette idée-là, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire plutôt que de se rapprocher de l'origine de l'univers et du Big Bang, en imaginant que l'univers finit par se contracter sur lui-même, sous l'effet de la force de gravité, on pourrait imaginer qu'en voyageant très très loin, très très vite, on finit par atteindre le Big Crunch, c'est-à-dire le sursaut de l'univers qui finit par s'effondrer sur lui-même avant de rebondir et donner quelque chose de nouveau.
Non, parce que j'avais dans l'idée que... j'ai pas vérifié. Hein, parce que j'ai pas eu le temps, mais... j'avais dans l'idée que la lumière, c'était une photographie du passé.
On peut le voir comme ça, effectivement.
Voilà. C'est-à-dire que la lumière qui nous provient après des millions d'années de lumière, parfois, enfin des... Donc nous donne une photographie du passé. Et voilà, j'ai joué avec ça, c'est-à-dire la lumière va vers le passé, donc la vitesse lumière aussi va vers le passé, et donc va vers l'origine. Quoi. comme le thème story, ça tombe assez bien.
Les étoiles qu'on voit dans le ciel ont toutes entre eux quelques années, si elles sont à quelques années-lumière de nous, et quelques millions d'années, si elles sont à quelques millions d'années-lumière de nous. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est le passé. Après, rattraper la lumière, voir la dépasser, suffirait pas, même quand même on pourrait le faire, à retourner dans le passé. Qu'est-ce qui se passe quand on passe le mur du son? Eh bien, on peut en réentendre un son qui était parti, le son part, on le rattrape, on le dépasse et on le réentend. Est-ce que c'est pour autant qu'on est remonté dans le temps?
Attends, revenons ça.
Il y aura un terreau à la fin. On a des notes.
Quand on parle, le son part dans toutes les directions.
Non, oui,
exactement comme la lumière part dans toutes les directions. Si on rattrape le son, on va plus vite que lui, qu'on le dépasse, qu'on s'arrête, on va l'entendre revenir à nous. Pour autant, ça va remonter dans le passé. On aura juste réentendu quelque
chose. Oui, mais bon. C'est une licence poétique, on est d'accord. Je suis un romancier. Heureusement, je publie pas mes conclusions dans une revue scientifique. Et, voilà.
Et après, pour en finir sur l'histoire du Big Crunch, malheureusement, il y a eu un prix Nobel en 2011 pour la découverte de l'accélération, de l'expansion accélérée de l'univers. On se rend compte que l'univers s'étend et s'étend de plus en plus vite. Ce qui met à mal la théorie du Big Crunch, de l'effondrement de l'univers sur lui-même. Ça, Paul Anderson s'est trompé aussi.
Pas de bol, quoi. Ouais. Dans le voyage, donc tu as des. En fonction de tes romans, soit on a des vaisseaux générationnels comme dans Zabon, mais parfois aussi comme dans La Fatalité du Point K, je pense au tome 1, tu les endors.
Oui, bah, il y a plusieurs façons de raccourcir le temps. Alors, soit on les cryogénise, soit on les endort. Moi, je pense à un ralentissement des fonctions métaboliques par une herbe, une sorte de chimie qui s'appelle de la yémane, je crois, et qui fait qu'on gagne, enfin, pour 80 ans de vie biologique, on a l'impression simplement d'avoir vieilli de 10 ans. On ne vieillit de 10 ans que pour 80 ans de temps réel. Voilà, c'est une des façons de supporter la longueur du voyage, c'est de vivre au ralenti. Après, je ne sais plus quel autre système il y a, mais on voit ça, normalement, c'est la cryogénisation qui est le plus connu, hein, ce qu'on voit dans Alien, d'ailleurs, c'est des gens qui se réveillent de cryogénisation, qui supportent le voyage comme ça, mais avec un peu pas les paradoxes aussi, c'est ça aussi des arrachements permanents, parce que du coup, les gens qu'on a laissés quelque part, on sait qu'ils vont vieillir 8 ou 10 fois plus vite que nous, et donc ça crée aussi des dans l'esprit, dans le souvenir, des distorsions assez terribles, quoi.
Après, la stase, qu'elle soit cryogénique ou chimique, a aussi un autre énorme avantage, c'est que quelqu'un qui dort ou qui fonctionne au ralenti mange beaucoup moins et respire beaucoup moins.
Oui, exactement.
Donc ça veut dire qu'on a embarqué beaucoup moins de nourriture, beaucoup moins d'air.
Et c'est ce qui m'intéressait dans le premier Fratellini du Panca, donc Frère Ewen, c'est que le personnage, lui, s'interdit de prendre cette herbe du sommeil parce qu'il doit rester vigilant. C'est son ordre qu'il lui impose de rester vigilant à tout instant. Donc, s'il prend l'herbe du sommeil, il pense qu'il va perdre de sa vigilance et donc trahir son ordre. Et donc, lui, il va vivre en temps réel ce que les autres vivent à une vitesse de 8 à 10 fois moins. C'est-à-dire que lui vieillit en temps réel, alors que les autres vieillissent en temps d'herbe du sommeil, en temps ralenti. Voilà. Et donc, c'est aussi qui fait toute la douleur du personnage, parce que le voyage dure 80 ans quand même. Donc, il a le temps de voir passer les. Il n'a personne dans le vaisseau à qui parler, sauf évidemment, il va trouver deux autres personnages qui, eux-mêmes, pour vivre leur amour à l'abri du temps, justement, vont refuser de prendre l'herbe du sommeil pour échapper au conditionnement de leur propre peuple, vont refuser l'herbe du sommeil ou faire semblant de prendre et pouvoir vivre leur amour en temps réel dans le vaisseau. Ça m'a semblé intéressant de voir des gens à deux vitesses comme ça à l'intérieur d'un vaisseau, de voir ces différences biologiques, de voir la solitude aussi, parce que ça engendre une solitude terrible, et de voir l'évolution des personnages. Enfin, ça, c'est. On est là dans le vrai cœur à mon avis, de la science-fiction, et de ce qu'elle peut apporter en termes de réflexion.
Est-ce qu'il existe des systèmes de stase? Est-ce qu'on y réfléchit?
Alors, on y réfléchit. Il y a quelques formes de stase. Qui sont utilisés couramment. L'anesthésie, au fond, est une forme de stase. On met le corps dans un état second et du coup, on laisse de côté certaines fonctions biologiques parce que c'est pas forcément très agréable d'être conscient quand on se fait charcuter. Autant que je sache aujourd'hui, on n'a pas de technique de cryogénie efficace. Ça sert à rien d'essayer de mettre la main dans l'azote liquide. Ça casse, c'est froid, ça marche pas bien. On fait ça au Palais de la Découverte à Paris. Ça fait des trucs très jolis, Mais en termes de conservation, ça ne marche pas. Le problème du froid, c'est que le froid brûle. On a sans doute tous fait l'expérience, une bouteille d'eau laissée dans un congèle finit par exploser. Parce que la glace prend plus de place que l'eau. Or, il se trouve que le corps humain est constitué en grande partie d'eau. Que les cellules elles-mêmes sont constituées en grande partie d'eau. Donc le problème, c'est que si vous congelez des cellules, les cellules explosent. Et les cellules explosées marchent moins bien, en général. Donc la cryogénie simple, en considérant qu'on prend quelqu'un, qu'on le met au congèle et qu'on le sort après ouais, pour le réchauffer, ça marche pas très bien.
La mousse cryogénique, on voit ça dans Star Wars aussi, quand Han Solo se fait cryogéniser par Jabba.
Ça fait une jolie plaque décorative.
Ouais, c'était un machin sur les cheminées. Les grandes cheminées.
Parlons un petit peu donc, du temps du voyage, tu l'as déjà dit, hein, sur... ce temps qui te permet aussi, toi, de faire évoluer tes héros par rapport à tout ça.
C'est ça. Comme je disais tout à l'heure, je pense que le voyage, c'est le changement, c'est la mutation, et que c'est l'occasion pour le personnage, pour les personnages, d'évoluer, d'amorcer ou de réaliser une métamorphose complète. Et l'enfermement, comme je disais aussi, exalte ça, c'est-à-dire oblige à encore plus de... Parce qu'il y a les souvenirs qui se mettent en place, il y a l'espoir d'une autre vie, et donc, à l'intérieur du personnage, je pense que ça s'agit beaucoup plus fort. Les sentiments, les émotions... C'est vraiment ce que j'ai voulu travailler dans mes avances, c'est cette espèce de transformation totale d'un personnage. Et c'est le seul personnage qui, à la fin d'un de mes romans, m'a fait pleurer. Quoi. Bon, la mort m'a fait pleurer à la fin parce que je m'étais tellement attaché à lui.
Il y en a plein qui ne m'ont pas lu.
Oui, désolé. Mais au bout de 120 ans, vous imaginez que. Bon. Mais c'est vrai que j'ai écrit il y a tellement longtemps que j'ai l'impression que tout le monde m'a lu, mais en fait, c'est faux. Et le voyage permettait ça, la lenteur du voyage permettait ça. Je pense que actuellement on est dans une époque où on essaie de voyager de plus en plus vite. Et souvent, quand vous regardez les récits médiévaux sur le voyage, qui se faisait à cheval ou à mulet ou à pied, où les gens avaient vraiment le temps de se transformer, parce que le voyage prenait du temps. Le voyage obligeait à réfléchir sans cesse. Et dans le voyage spatial, on retrouve ces conditions-là, c'est-à-dire que le temps permet la réflexion. Si vous prenez le TGV en trajet Paris, vous n'êtes pas tout le temps à réfléchir, vous pouvez en lire un journal et puis vous êtes arrivé à Paris. Si vous preniez l'Orient Express jusqu'à Vladivostok, vous avez déjà beaucoup plus de temps de réflexion. Donc le voyage, c'est un moment privilégié pour moi, de transformation, d'ouverture d'esprit, de rencontre, de bousculement de la vie quotidienne, enfin, etc. C'est une adaptation. Le voyage nécessite une adaptation permanente par les nouveaux paysages qu'on voit, les nouvelles personnes qu'on rencontre, les conditions de vie, et donc oblige à une évolution. C'est un des grands intérêts, à mon avis, du voyage.
Et je pense que ce qui est pratique dans le thème du voyage, justement dans la science-fiction, c'est que ça permet de choisir la durée du voyage qu'on veut. C'est-à-dire que plus on va vite, et plus le voyage, pour le voyageur, est court. À la limite où on se rapproche très très près de la vitesse de la lumière, le voyage est quasiment instantané. La lumière, à l'absolu, voyage de manière instantanée. C'est-à-dire que pour parcourir 12 années-lumière, à la vitesse de la lumière moins epsilon, ça prend quelques secondes pour le voyageur. Ça prendra, à 12 années-lumière, 12 ans, pour ceux qui sont restés sur la planète et qui vous ont regardé partir. Mais pour le voyageur, c'est de plus en plus court. Ça veut dire qu'on peut avoir un voyage, le même voyage, la même distance, qui soit très très court, si on a besoin, pour les besoins du roman, d'aller vite d'un point A à un point B pour le voyageur, soit très lent, en disant, oui, bon, c'est quand même pas facile, donc le vaisseau, il va pas si vite que ça, donc ça prend entre 1 million d'années et quelques secondes, selon ce qui est le plus pratique.
Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai travaillé aussi le voyage instantané dans Le Guerrier du Silence, où c'est des romans, c'est-à-dire que on rentre dans une machine, on fait un code, on fait une programmation et on se retrouve quelques secondes après sur une planète très lointaine. Mais le problème des déromades des guerres du silence, c'est qu'ils ne sont pas perfectionnés et que donc on arrive sans ses vêtements, donc il faut arriver dans des endroits à peu près corrects, sinon on risque quelques ennuis. Et il y a aussi des remarques qui se dérèglent ou qui projettent un des personnages au milieu d'un océan. C'est un peu les risques du métier, enfin du voyage. Donc, ce sont les besoins effectivement de l'auteur. Ça dépend de ce qu'on cherche à développer, quoi. C'est-à-dire s'il y a besoin d'instantanéité, de vitesse, alors on va inventer des systèmes très très rapides, instantanés. Et puis si on a besoin de lenteur, alors on va revenir au système de propulsion classique qui va nous mettre des années à aller d'un endroit à l'autre.
Mais ce que dit la physique, c'est que le voyage peut être très court pour le voyageur, mais que pour le reste de l'univers, il y a quand même, ce que dit la physique, on peut bien se comprendre, une durée minimale. La téléportation, par exemple, est étudiée et réalisée aujourd'hui en laboratoire. C'est une des spécialités en particulier de Serge Haroche, qui a eu le prix Nobel il y a quelques semaines. Qui consiste à créer des états quantiques qu'on va séparer en deux, et en faisant une mesure sur un bout de l'état, l'autre bout de l'état qui peut se trouver où on veut, mettons sur notre planète, va être instantanément modifié. Le problème, c'est qu'on se rend compte que pour réussir à transmettre de l'information avec ça, donc typiquement à téléporter quelqu'un, par exemple, qui est jamais une grosse somme d'informations, il faut réussir à communiquer de manière classique d'une information du point de départ au point d'arrivée. Donc il va avoir à la fois cet état quantique délocalisé et envoyer de la lumière, au mieux, pour communiquer de la planète A à la planète B. Donc on est à nouveau
confronté à la vitesse lumière.
Contraint par la vitesse de la lumière. Et c'est ce qui pose aussi un problème, cette limite qui apparaît en tout cas aujourd'hui comme absolue, sur tout ce qui est de la communication, tout ce qui est de la gestion des empires galactiques, qui sont en général calqués sur le modèle romain, avec la question du déplacement des troupes et du déplacement d'informations d'un bout à l'autre de l'Empire. On voit que c'est ce qui pose problème dans Fondation, par exemple. Pour arriver d'un bout à l'autre de l'Empire, il n'y a rien à faire. Si l'Empire, c'est plusieurs années-lumière, ça prendra au minimum plusieurs années. Alors que sur l'Empire romain, ça prenait quelques semaines et quelques mois.
Pour reparler du voyage et de la science-fiction, on parlait de crédibilité tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu essayes, entre guillemets, de donner au moins l'apparence de la crédibilité. Et puis, est-ce que ça veut dire que tu es très attentif à ce qui se passe aujourd'hui dans les sciences et dans les techniques?
Au début, je ne me souciais pas du tout de la crédibilité scientifique. Et j'ai compris ma douleur quand mon éditeur, Pierre Michaud, de la Talente. Alors, j'ai fait un super truc. J'étais content de moi, c'était joli, c'était bien. Je suis content de mon système. Il me dit, dans les marges, je reçois ses annotations, Pierre, ceci n'est pas possible. Parce que tu as un petit A, petit B, petit C, petit D. Ok, donc si tu veux faire des univers de science-fiction, au moins les règles scientifiques connues, tu dois les respecter. Évidemment, quand on est dans un vaisseau, il n'y a pas de règles scientifiques connues pour l'instant, puisqu'on n'a pas de vaisseau. On peut inventer des trucs. Le bon Schlar, c'est aussi qui peut. J'ai inventé le bon Schlar, par exemple, personne ne connaît. Qui est un système qui, basé sur la physique quantique où on est dans deux états en même temps et on sélectionne un état et donc instantanément on se trouve dans un deuxième état. Ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, mais qui n'est pas possible à cause de la vitesse de lumière, bon, c'est un système d'information. Mais voilà, ça marche. Chez moi, ça marche. c'est l'avantage du romancier sur les scientifiques, c'est que ça marche. Donc, je me suis dit effectivement, je vais peut-être sur 100 lecteurs avoir 3 lecteurs pointus scientifiquement. Peut-être ces trois-là, je n'ai pas le droit de les perdre quelque part. Je n'ai pas le droit de les perdre par négligence, parce qu'on a passé un pacte avec eux qui est celui de la crédibilité. Suspension of disbelief, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire la suspension de la crédibilité, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que le lecteur dise oui, oui, j'y crois. Et le lecteur à tendance scientifique, on a aussi devoir de le garder à l'intérieur du roman. Et donc, autant que faire se peut, une règle scientifique connue, j'essaie de la respecter. Donc, j'essaie de voir après. Si ce que je dis, ça concerne la gravité des planètes, par exemple, comment est-ce qu'on devient quand on est une planète à gravité forte, ça, il en parle très bien de l'accident de l'Hyperion, où les mecs sont plutôt balèzes, ras du sol est plutôt balèze pour lutter contre la gravité. Donc, j'essaie de m'informer pour dire le moins de bêtises possibles. Mais après, quand j'estime que la science s'arrête à certaines limites, puisque. Voilà, eux, ils sont tenus par des résultats, enfin, par des théories, par des ensembles cohérents, etc. Et que quand j'ai besoin de quelque chose pour moi illustrer mon roman, je prends son problème. Et je dis, voilà, c'est telle loi de machin, qui a, bon, on s'en fout, Mais, et là, je pense que la crédibilité fonctionne très bien parce que, du coup, sur les autres règles scientifiques connues, si j'ai été réglo, si j'ai été rigoureux, voilà, c'est une question de rigueur, quoi. Si j'ai été rigoureux, ça passera beaucoup mieux. Et je pense que les constructions imaginaires, plus elles vont dans l'imaginaire, plus elles exigent de la rigueur. Si vous parlez d'un roman contemporain, vous parlez de la Terre, de la Russie, de la Chine, vous n'avez pas besoin d'expliquer, vous parlez d'une bagnole, d'une voiture, vous savez très bien comment elle fonctionne, vous avez tous conduit une voiture, ou presque, et donc ça ne vous pose pas de problème. Mais vous êtes dans un environnement spatial, donc ce sont des vaisseaux, ça n'existe pas. Donc il faut donner de la crédibilité. Pour gagner cette crédibilité, garder cette crédibilité, c'est-à-dire ne pas faire sortir le lecteur à un moment donné parce qu'il va dire quelque chose qui déconne, je ne vois pas comment, quelque chose qui ne va pas dans son truc. Donc si vous voulez garder cette crédibilité, ça veut dire qu'il faut faire preuve de rigueur sur tout ce qui est connu. Bon, c'est vrai que dans un vaisseau normalement flotte, bon, voilà, des générateurs de gravité artificielle, ouais, pourquoi pas. On ne sait pas trop comment ça marche, mais bon, on accepte le principe-là. Et si on a été rigoureux, je pense que ça passe très très bien.
Je crois que la question, effectivement, elle est plus dans la cohérence que dans l'ancrage rigoureux aux théories scientifiques actuelles. Je crois que même le lecteur scientifique, en tout cas le lecteur scientifique que je peux être, cherche pas à tout prix à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mieux des bons points.
Et ça marche ou ça marche pas.
Sinon, ce serait très triste, ce serait pas du tout drôle de lire de la science-fiction. Je crois effectivement que l'enjeu, c'est de se donner un jeu de règles au départ, ouais, et d'essayer de s'y tenir de manière à peu près logique et cohérente. Et si ces jeux de règles sont éventuellement en contradiction avec ce qu'on connaît aujourd'hui, tant pis, c'est effectivement la suspension temporaire de la crédulité qui consiste à dire j'accepte, en lisant ce livre, de me plonger dans les règles de l'auteur. Et moi, c'est un problème que j'ai eu avec Universal War One, le cycle de BD, où on imagine une arme ultime, soit, ultime parce qu'elle va plus rapidement que la lumière, elle est instantanée, soit, je suis prêt à l'admettre, et elle est instantanée parce que c'est la gravitation. Problème pour moi. La gravitation, on a montré que ça se propageait à la même vitesse que la lumière. Je suis prêt à accepter sans problème jusqu'à ce qu'on me dise c'est une arme ultime qui marche instantanément, mais effectivement, quand on se met en opposition directe avec quelque chose,
oui, avec le scientifique,
c'est plus problématique. Ça n'empêche pas d'avoir du plaisir à lire l'ouvrage. Mais il y a là un problème de cohérence davantage.
Oui. De toute façon, je pense que tout auteur d'imaginaire, on parlait fantastique, on parlait fantasy, bon, science-fiction, il y a souvent d'ailleurs des univers croisés, hein, les frontières sont aussi poreuses que ça, mais tout auteur d'imaginaire est tenu à une cohérence, d'une façon ou d'une autre. Si vous créez un empire dans un monde de fantasy, ben, il va falloir être cohérent avec cet empire, avec cette organisation, avec des déplacements, avec tout pareil. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est parce qu'on a un univers de magie qu'on peut dire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a un imaginaire qu'on peut dire n'importe quoi, qu'on peut partir dans tous les sens. Parce que souvent, les gens, ils passent dans les salons, c'est très, très marrant, quoi. Parce que des salons généralistes, comme le Mans, il y a quelques de jours, les gens passent et puis ils arrivent dans le rayon, ils voient des livres un peu comme ça, là, colorés, avec des petits dessins partout, et ils font un grand détour. Comme si, d'un seul coup, ils allaient entrer dans un truc un peu bizarre et dangereux, où on lit absolument n'importe quoi, avec des sortes de bulbes partout, enfin, un truc. Parce qu'ils ont l'impression que l'imaginaire, c'est n'importe quoi. Or, ce que je disais tout à l'heure, c'est une richesse inouïe, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui passe à côté d'un rayon de science-fiction, par principe, parce que ça n'existe pas, c'est la connerie, c'est ça me fait peur, et bien il passe à côté des richesses, parce qu'il y a énormément de grands textes de science-fiction, et comme je disais, c'est vraiment des pierres apportées à la réflexion humaine, au développement des civilisations, enfin tout ça, ça brasse une grande échelle, c'est énorme. Et donc, il faut rentrer en moi, en tant qu'auteur, quand je vois ces gens-là, qui passent, qui n'aiment pas dans le principe la science-fiction, qui font un grand détour, qui partent se donner, ou je sais quoi. Si un jour j'ai la chance, par une médiathèque, par une bibliothèque, par n'importe quoi, par un concours, il y a des gens qui ont lu certains de mes bouquins parce que ça faisait partie d'une sélection d'un concours des prix du comité d'entreprise, donc ils étaient obligés de le lire si vous voulez participer à la sélection. Et ils sont venus me voir parce que j'ai rencontré ces lecteurs pas du tout habitués à la science-fiction, que j'ai rencontré ensuite pour le prix, et qui m'ont dit ben voilà, on ne connaissait pas, on ne savait pas, on ne pensait pas que c'était ça. Ben oui, donc voilà, il faut rentrer dedans. Et si moi j'ai la chance de capter celui-là, j'ai pas le droit de le perdre par une paresse, par un manque de rigueur, par, parce que j'ai été négligent sur tel ou tel détail, parce que j'ai pas été assez bon avec mes personnages, parce que les gens recherchent, nous sommes des humains, nous parlons aux humains, nous parlons d'êtres humains et des problématiques humaines. Donc, moi, en tant qu'auteur, cette rigueur-là, au moins, que je fasse de la fantasy, de la science-fiction, du fantastique, c'est de dire, je vous parle et j'essaie de faire en sorte que vous entriez dans l'univers. Quoi. Et ça, ça passe par la rigueur, je pense.
Une petite question scientifique, pourquoi est-ce que tu lis de la science-fiction et tu apprécies le genre?
Parce que c'est un geek.
Je crois effectivement qu'il y a le plaisir du dépaysement à travers de la science-fiction, du fait d'aborder des questions qu'on se pose parfois dans la vie de tous les jours et de les voir sous un autre jour que celles sur lesquelles on les aborde habituellement. Effectivement, un livre, c'est un peu un laboratoire aussi pour les relations humaines. On met des personnages dans une situation, on voit comment ils évoluent, on voit comment évoluent les relations entre eux. Et la science-fiction permet sur le plan humain de mettre ces relations dans des conditions expérimentales particulières. C'est vrai qu'on y traite aussi souvent des thèmes scientifiques et physiques en particulier, et que c'est toujours rigolo de retrouver dans un livre des choses qu'on a apprises, sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on a passé du temps, et se dire tiens, là, Scott Card parle de décalage temporel, c'est les jumeaux de Langevin, c'est rigolo, j'ai fait ça en cours la semaine dernière. Il y a aussi le plaisir de retrouver, le plaisir intellectuel, de retrouver des concepts, des notions. Actuelle. Et puis il y a aussi cet aspect dont on parlait au départ, de la façon dont la science-fiction arrive à faire passer au public et à faire passer dans la culture commune un certain nombre de découvertes récentes. Et ça, ça me semble très important. Je pense qu'il faut que la culture commune s'empare de découvertes scientifiques pour faire monter le niveau scientifique commun et faire en sorte que des découvertes au-dessus de ce niveau puissent être faites. On ne peut pas imaginer la physique quantique ou la relativité générale quand on est quelques siècles avant Jésus-Christ. On imagine que la Terre est centre de l'univers. C'est pas possible de s'élever à ce niveau de compréhension-là en partant de trop bas. Et je pense que la science-fiction a un rôle très important à jouer là-dedans. Et c'est fait partie du plaisir que moi j'ai à la lire.
On arrive un petit peu au bout de notre heure. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des notions scientifiques que vous avez loupées, comme les jumeaux ou des choses comme ça? Vous avez le droit de le dire. Ou des questions à Pierre Bordage? Oui, non.
Non, ça va.
Tout va bien, tout le monde a tout bien compris, vous êtes sûr?
Je suis d'accord, mais c'est par rapport à ce que tu disais, ce qui m'intéresse dans la science-fiction, avec ces deux sciences scientifiques, c'est que évidemment le centre de l'univers s'est déplacé et qu'il y a une nécessité de remythologiser les choses. Et je pense que c'est une littérature finalement à visée mythologique qui tient compte des nouvelles avancées scientifiques, à mon avis. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais je pense que le socle, il existe depuis la nuit des temps. Le socle de narration, le socle narratif sur lequel on a installé, il est là, par Homer, il l'a déjà installé. Enfin bon, tous les mythes les ont installés. Et puis il y a des nouvelles découvertes qui font que la Terre se déplace un peu, les choses s'élargissent, comme tu disais, la vision devient plus globale. Et donc il y a une nécessité de réécrire les choses et par le biais de la fiction qui est. Le biais du, après, on pourra parler du héros, le rôle du héros, du visage tel que défini par Joseph Campbell et tout ça, avec des héros qui représentent ça, quoi, qui humanisent ça en quelque sorte, qui incarnent la nouvelle façon de voir les choses.
Je crois effectivement qu'on retrouve à la fois dans la mythologie ancienne, dans la science-fiction comme mythologie moderne, et dans la science, un certain nombre de questions communes. Des questions par rapport au temps, par rapport à l'existence et à l'espace. Et c'est amusant de voir qu'on utilise en science certains vocabulaires de la mythologie. Il y a un mécanisme de refroidissement des atomes qui s'appelle l'effet Sisyphe. On est vraiment dans les mêmes images, dans les mêmes idées.
Oui, monsieur.
Une question pour monsieur Bordage. Comment
vous pensez après vos romans
Question là.
Une question par rapport aux personnages. Est-ce que vous les imaginez comme des humains du futur, finalement, où vous pensez que la nature humaine est immuable, et finalement, vous transposez des caractères humains que nous avons aujourd'hui, quoi, ou alors vous les imaginez différents. Et comment vous les imaginez?
Après, ça dépend vraiment des conditions de vie de ces mêmes personnages, de leur évolution. Si on est dans une planète à gravité forte, il est probable qu'il y ait une sorte de modification de la physiologie, une adaptation. Après, je vais tenir compte effectivement de leur environnement et tout ça. Sinon, j'ai tendance à les imaginer comme moi parce que je suis assez pauvre en imagination. Vampirio Céleste, par exemple, j'imagine des personnages à gravité très très faible, qui vivent sur une planète à gravité faible et qui, dont l'usage des gens finalement se perd. Puisqu'on peut avancer par petits bonds successifs ou bien quasiment flotter, et donc les jambes se transforment en, si je me souviens bien, jambelles, une sorte de filament finalement. Les jambes disparaissent et donnent naissance à un autre membre beaucoup plus souple, beaucoup plus léger, qui permet de se déplacer plus facilement dans ce genre de. Donc voilà, c'est ce genre d'évolution qu'on se plaît à imaginer par rapport aux environnements créés.
C'est pas mental.
Si pareil,
la nature humaine reste quand même à la même.
Ouais, je pense que les préoccupations des hommes préhistoriques sont rapprochent beaucoup des nôtres finalement, qui sont manger, dormir, se reproduire, etc. Donc il y a aussi une autre façon de penser, mais il y a ce fond qui est commun à l'humanité depuis la nuit des temps, je pense, et qu'on retrouve partout. Puis encore une fois, je suis un être humain vivant dans cette époque-là. Nous servons de l'imaginaire pour m'adresser à d'autres êtres humains, et donc je parle des êtres humains de nous. Finalement, on ne parle que de nous, on ne peut pas parler d'autre chose. Je pense que ce serait tout à fait déstabilisant et peu intéressant de, par exemple, décrire une race extraterrestre, parce que d'abord, si je décris les extraterrestres en français, c'est une grosse faute de cohérence, parce que normalement, c'est pas la même langue.
Des extraterrestres pas français.
Mais à moins que les traducteurs, des extraterrestres français, bon voilà. Des Canadiens, non, c'est ça. vous voyez ce que je veux dire, c'est vous parler de robots, de mécanique, ça ne va pas intéresser trop le monde. C'est la matière humaine qui m'intéresse. Alors après, effectivement, on la met dans des conditions un peu extrêmes. La science-fiction permet ça, des conditions nouvelles. Et donc, on va en tirer une sorte de. L'étirer un peu à cette nature humaine pour voir comment elle réagit. Mais c'est essentiellement de la matière humaine.
On retrouve en fait un thème un peu proche en physique. C'est-à-dire que votre question, c'est de savoir si la nature humaine est la même partout et tout le temps. En physique, on se pose la même question. Au fond, les lois qu'on connaît ici, qui décrivent la façon dont la pomme tombe sur Newton, est-ce que c'est les mêmes lois dans une galaxie très très lointaine, il y a très très longtemps? On n'en sait rien, on n'était pas là pour le voir. Donc c'est un principe cosmologique, et c'est un des principes les plus fondateurs et les plus indéboulonnables, qui est de dire, on va imaginer que les lois de la physique sont partout les mêmes. De la même manière qu'on a tendance à mettre dans toutes les civilisations humaines, ou qu'elles soient dans la galaxie ou dans l'univers, le même genre de mentalité.
Et c'est pour ça que
j'ai juste un principe.
Les peuples extraterrestres qui réchauffent des humains, ça me paraît difficilement crédible ou acceptable.
Est-ce que Scott Card l'évoque les dorivores qui ont une approche sans communication orale, par exemple?
Ouais. Oui, c'est normal, obligé d'inventer vraiment autre chose. Mais de toute façon, ce sera toujours un reflet pour l'être humain. On ne sera pas à l'intérieur des dorivores ou d'autres civilisations, parce que ce n'est pas compréhensible pour nous. C'est finalement assez peu d'intérêt. C'est simplement nous, notre réaction par rapport à l'autre. L'alien, c'est ça, c'est la réaction de l'humain par rapport à l'alien. C'est ça qui est intéressant, je pense. Et c'est de ça que traitent la plupart des auteurs de science-fiction. Enfin, peut-être.
Si la figure de l'altérité.
La figure de l'altérité, comme le ski joliment, je pense.
Est-ce que quelqu'un a encore une petite question? Oui, alors peut-être commencer. Monsieur Pierre.
Ma question n'est pas scientifique, enfin, elle est relative à l'auteur qui invente des mots.
Oui.
Je trouve que c'est une de vos grandes richesses, enfin des richesses que vous nous apportez aussi. Et donc, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette invention, de ce pouvoir inventif que vous avez, en plus des situations, celui du vocabulaire.
Alors, c'est un des grands plaisirs de l'auteur de science-fiction. C'est l'invention de mots. Je suis un passionné d'étymologie. J'adore le dictionnaire et j'adore savoir comment un mot est arrivé dans une langue, dans la langue française par exemple, quelle modification il a subi, quelle modification à quelle époque, pour quelle raison historique. Et j'ai l'impression qu'on peut reconstituer quasiment toute l'histoire humaine à travers un dictionnaire, par juste l'étymologie, l'histoire des mots. Donc, il y a une grande responsabilité à créer des mots, puisque les auteurs de science-fiction sont souvent tentés, les tentations des auteurs de science-fiction, c'est de faire du mot pour du mot, c'est-à-dire faire un mot qui sonne étrange. Et ça, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Donc, ce que je cherche à faire, c'est d'inventer une étymologie fictive à chaque mot, c'est-à-dire qu'il doit avoir sa place naturelle dans le contexte de l'histoire. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de lexique dans mes bouquins. Je ne mets jamais de lexique parce que je pense que si je mets un lexique, je n'ai pas fait mon boulot, quelque part. C'est-à-dire que je trouve ça désagréable d'être interrompu pour aller vérifier à la fin du bouquin ce que veut dire un tel mot. Donc j'essaie de faire en sorte que le mot passe dans le contexte, et pour ça je lui invente une étymologie fictive. Ouais. Je lui invente une histoire. Même chose pour les noms, parce que les noms de personnages ne sont pas forcément gratuits. Il n'y a rien qui m'agace plus que de voir des assemblages de X et de Z pour un nom de personnage futur, parce que c'est comme ça que ça doit être. J'essaie de voir comment les noms pourraient s'aimer dans la galaxie si nous avions un secret de voyage dans l'espace. Il y a quand même une majorité d'Indiens, une majorité de Chinois, et il est très probable qu'on trouverait une grande majorité de noms indiens et chinois dans la galaxie, déformés aussi, puisque évidemment ça se déforme avec le temps, il suffit de voir comment nos langues se déforment et comment les noms se déforment. Et donc je travaille tout ça comme ça, quoi. C'est-à-dire c'est aussi fait partie de la rigueur et de la cohérence, je pense. C'est-à-dire que rien ne doit être purement gratuit, parce que si tu entends, je m'en paye un petit, c'est pour plaisir. Mais globalement, voilà, il doit y avoir une justification à chaque mot inventé, et ça, c'est un immense plaisir à faire. C'est vraiment créer du vocabulaire, c'est une vraie jubilation. J'ai beaucoup aimé faire ça dans un livre de fantasy, de fausse fantasy, qui s'appelle Les Fables de l'Impure, où les personnages ont un langage dégénéré. Donc j'ai fait un mélange de patois, vendéen, patois périgourdin, plus inversion grammaticale, enfin invention lexicale. Par exemple, quand vous régressez vers l'animalité, vous perdez votre individualité, puisque c'est l'instinct qui reprend le dessus, et donc au détriment de l'individu. Donc le pronom personnel a beaucoup moins de raison d'être que dans notre propre système de communication, où on affirme le jeu, l'individualité. Alors, je déplace le pronom personnel, je mets en queue de verbe, comme si il avait moins d'importance, et en queue de verbe avec une apostrophe. Ça veut dire qu'il va se détacher peu à peu. Il commence à se détacher du verbe. Au lieu de dire « je marche », ils disent « marchais-je », ce qui n'est pas grave à prononcer. Et donc, on sent que ce jeu va complètement disparaître quand le personnage sera retourné à l'animalité complète. Voilà. Alors, c'est ce genre de réflexion que je mène pour tout ce qui est vocabulaire ou invention grammaticale, ce genre de choses. Et c'est vraiment plaisant à faire.
C'est plaisant à lire.
Ah, merci. J'ai un projet un jour d'écrire un livre au dictionnaire, c'est-à-dire raconter une histoire uniquement par la définition des mots. Bon, c'est un trop gros boulot, donc je recule beaucoup. J'attends d'être à la retraite, mais vous voyez ce que je veux dire. Comme j'ai vu comment les mots se répondaient dans le dictionnaire les uns aux autres, et comment ils formaient une sorte de trame assez incroyable avec toute l'histoire en germe, je me dis, on peut raconter toute une histoire rien qu'en définissant les mots.
Autre question?
Moi j'ai une question plus pour le scientifique, c'est-à-dire qu'on voit que les romanciers utilisent vraiment la réalité pour créer des romans, les lois, c'est les lois scientifiques et tout ça. Et je voulais savoir si les scientifiques eux, se basaient sur les romans de science-fiction pour développer des théories. Bon, par exemple, j'imagine que la téléportation, ça a été le scientifique a dû travailler dessus après avoir vu Star Trek, j'imagine.
Alors, je ne sais pas exactement historiquement comment est-ce que ça s'est fait, mais forcément, bien sûr, on est inspiré par ces thèmes-là. On parlait au début de la table ronde des trous de verre. La réflexion autour des trous de verre a été inspirée au départ autour de la réflexion autour d'une œuvre de Carl Sagan, de science-fiction, où il cherchait un moyen de communiquer d'un bout à l'autre de la galaxie plus rapidement que la lumière qui ferait tout le tour pour aller du point A au point B. Donc il y a effectivement un va-et-vient comme ça, et pour donner un autre exemple, il y a une équipe de l'université Paris 7 qui qui a créé un surf à l'équitation magnétique. Ils l'ont fait parce qu'ils ont vu Retour vers le futur, qu'ils ont trouvé ça cool, et donc ils ont fait un hoverboard. Vous avez un skate qui
est... Il devait l'amener à Nantes, puis je crois qu'il n'y aurait pas cette année, normalement.
Pardon ?
Le skateboard, il devait l'emmener à Nantes, au Papillon, mais je crois qu'il ne l'emmène pas, finalement.
Je ne sais pas s'il va faire ça, j'imagine qu'à terme...
Oui, il va le faire, ouais.
Et donc c'est un skateboard avec des pastilles de supraconducteur dedans, qui sont refroidies à l'azote liquide, sur un rail d'aimant. Pour l'instant, c'est effectivement contraint à se déplacer sur un rail. Et donc, vous pouvez monter sur un surf à lévitation magnétique, comme dans Retour vers le futur, ou presque.
Est-ce qu'il est rose ?
Non, il n'est pas rose. Ils ont voulu le faire rose, et puis du coup, il y a une tension dans l'équipe. Et... En fait, ils se sont rendus compte que le rose venait moins bien.
Le rose vole moins bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez, encore une et on passe à l'apéro. Oui.
En fait, en bouche, moi, j'avais été très marqué.
Attendez, on va vous donner un micro pour que.
Par les croix de feu.
La combustion lente.
Voilà, comment vous est venue cette idée de croix de feu ? Parce que moi.
On en a beaucoup parlé des croix de feu. Les croix de feu, on en a beaucoup parlé parce que ça a marqué apparemment les esprits.
C'était fait pour.
C'était fait pour, oui.
Pour revenir sur la question de tout à l'heure.
Oui, et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au peuple religieux très policé, qui est capable de barbarie énorme, hein, parce que plus il y a de contrôle et plus je pense, plus il y a tentation de contrôle de l'esprit et plus grande est la tentation de la barbarie aussi. Hein, plus grandes sont les crises de barbarie quand elles surgissent. Quoi. Les croix de feu, donc, pour ceux qui n'ont pas lu l'hallucinant, c'est une sorte de croix dans laquelle on est et dans laquelle on meurt très lentement à cause de la chaleur. Ça m'a été inspiré par l'église, hein, je ne suis pas allé chercher très loin.
Non, je pensais surtout à l'air pulsé.
Oui, l'air pulsé dedans, oui. Oui, parce que c'est une sorte de bulle, c'est fermé, quoi. Oui, j'ai eu simplement. Parce que bon, il y a un grand décalque, donc j'ai arrivé pas mal de contes dans l'hallucinant, c'était mon premier livre, donc. Et comme j'étais versé dans la religion, parce que je suis de Vendée et que c'est un département très catholique et que j'étais au petit séminaire et tout ça, j'étais très marqué par la religion et j'ai voulu simplement pousser justement cette logique que j'avais pressentie au petit séminaire et auprès des prêtres. J'ai voulu le pousser au maximum et à l'échelle galactique pendant qu'on y était. Donc voilà, après tout c'est l'appareil de l'église du Creuse dans le silence est tout à fait calqué. Il y a un souverain pontife, il y a des cardinaux, il est vraiment calqué sur l'église catholique, et dont le symbole est la croix. Et bon, j'ai pensé que voilà, c'est une sorte de retournement aussi de faire en sorte que les condamnés par cette église soient condamnés au supplice de la croix de feu à condition d'entrer.
Mais je ne suis pas complètement certain que ça pousse beaucoup plus loin ce qui a été fait par l'Inquisition.
Je pense
qu'au fond, c'est juste des moyens technologiques différents à deux époques différentes. Et je ne suis pas certain que si l'Inquisition a eu des croix de feu à l'Inquisition.
Échelle et moyens technologiques, quoi, voilà, c'est ça. Échelle et moyens technologiques. D'ailleurs, pour les éditions qui va apparaître en version numérique, on a les éditions d'attente m'ont demandé ça, un petit texte qui sera offert en plus. En plus de l'édition numérique, et j'ai justement raconté l'histoire de la première rencontre entre Palmin, ce qu'a dit Poneros, et le Buffy de l'Église, et leur espèce de pacte qui passe, et justement la naissance ou l'arrivée de l'Inquisition montane. Ça donne envie d'acheter. Hein.
12 novembre.
C'est fait pour.
La sortie, la
ouais,
c'est ça. 12 novembre.
Donc il y a ce petit texte qui sera offert en supplément. Mais c'est. Moi, je suis un peu obsédé par l'idée, l'aspiration spirituelle de l'être humain, auquel je crois beaucoup. Je crois à l'aspiration spirituelle, je ne suis pas athée du tout. Et la différence entre l'aspiration spirituelle personnelle, et les appareils ecclésiastiques qui sont là pour briser les aspirations personnelles. C'est cette ambivalence-là que j'ai trouvé parce que je pense que quand j'étais tout petit, j'avais des aspirations un peu mystiques. Et donc, ça s'est traduit pour moi par, tu vois, petit séminaire, tu veux devenir prêtre, Et pendant 4 ans, je pense que les prêtres se sont acharnés à casser cet élan mystique, parce que, évidemment, un mystique, c'est quelqu'un qui va vers sa liberté personnelle et que la religion ne tolère pas, parce que la religion, elle, ce qu'elle veut, c'est tenir des fidèles sous sa coupe. Donc, par un ensemble de dogmes et de préceptes et de conditionnement social. Et moi, j'étais assez horrifié de ça, parce que quand on lit l'Évangile, les Évangiles 4 canoniques reconnus par l'Église, et quand on voit ce qu'est devenu l'Église, elle fait exactement l'inverse de ce qu'il y a dans les Évangiles canoniques, c'est-à-dire les Évangiles reconnus par l'Église. Il y en a plein d'autres, hein, mais les 4 canoniques sont reconnus par l'Église, et l'Église, c'est exactement l'inverse. Et ça, je suis assez sidéré par le fait qu'on puisse adhérer à ça en disant votre propre livre raconte l'inverse de ce que vous faites, vous. Et je pense que la véritable spiritualité, c'est une démarche. On n'a pas parlé de la spiritualité, c'est vrai, dans la science-fiction, mais pour moi, elle a une importance. C'est la démarche vers la liberté intérieure, c'est exactement l'inverse des religions. Et donc, c'est pour ça que j'ai réglé ces comptes-là, où j'ai poussé à l'extrême l'Église, décalque l'Église du Creus, qui est un décalque de l'Église chrétienne. On connaît, qui a sévi pendant le 14e, 15e siècle par l'Inquisition, etc. D'ailleurs, très bien décrite par Valerio Evangelisti dans Nicolas Ulrich, Inquisiteur, son livre de science-fiction avec un personnage d'Inquisiteur.
Et qui ressent en ce moment la position adulte. Y a-t-il une autre question ? Un autre système de torture qui vous aurait épaté dans les romans de Pierre Bordage ?
Il paraît qu'il y en a plein. Hein. Quand les vaisseaux, je m'en souviens plus. Alors là, Jérôme va vous en parler, parce que c'est toi qui organise le prix actuel de l'Uchronie. Ben, l'Uchronie, c'est une hypothèse sur le passé. Donc c'est aussi une littérature d'hypothèse, et si on change un point du passé, ça nous change notre présent. C'est un point de divergence, comme il y a des points de divergence dans le futur ou dans l'anticipation, parce qu'on choisit toujours un point de divergence d'anticipation, parce que aucun auteur d'anticipation n'est un philologue ou un devin, et donc il choisit un point de divergence et il va vers une direction, et il y a des milliers de directions possibles. Et en uchronie, c'est pareil, sauf que le point de divergence, on situe l'histoire. Et je pense que c'est intéressant, l'uchronie, dans l'effet miroir par rapport au présent, parce que justement ce décalage qu'on fait entre le point de divergence historique et notre présent crée un décalage qui nous permet de mieux observer ce qui se passe dans le présent. De dire, tiens, si on avait changé cet élément d'histoire-là, voilà peut-être ce qu'aurait pu se produire. L'histoire est tellement fragile parce que des batailles se sont perdues ou gagnées à un cheveu ou à un truc, un détail vraiment complètement stupide. Et donc, ça aurait pu prendre une toute autre tournure. Et quand Alain Grosset a créé la collection de chroniques chez Flammarion et Monet Participé, j'étais super enthousiaste, j'ai toujours été intéressé par l'histoire. L'histoire, pour moi, c'est. Et de toute façon, je pense que la science-fiction, c'est une littérature chronologique et elle peut aller très bien. C'est une tâche sur le temps, donc elle peut très bien aller dans le futur et très bien aller dans le passé. Pour moi, c'est la même démarche, finalement. J'en avais discuté aussi avec un auteur de romans historiques, et finalement, j'ai tombé en convergence sur le fait qu'on avait des démarches très communes. Lui, il se servait de pièces existantes pour étayer son histoire, et un auteur de science-fiction, lui, crée, déterre ses propres archives pour créer une sorte de. L'archive du futur qui crédibilise son histoire. Donc on est dans une sorte de démarche d'historien, historien du passé, historien du futur. Et l'Uchronie réunit ça finalement. C'est-à-dire que c'est à la fois passé, parce qu'il faut connaître l'histoire de son point de divergence pour voir comment se développe une nouvelle civilisation à partir de ce point-là, et bien connaître ce point-là de départ. Et puis après, il y a l'imaginaire qui joue. Enfin, putain, donc moi, je trouve ça assez passionnant aussi.
Je crois effectivement que c'est en fait les mêmes règles, c'est au départ le et si, qui permet de se donner un jeu de règles et de lois au départ, éventuellement différentes de celles qui ont eu lieu, mais qui sont quand même ce qu'elles sont, et puis de laisser évoluer l'ensemble de manière cohérente. Ouais. Et à nouveau, on retrouve cette question de cohérence.
Exactement, on est dans le même. Et Flammarion m'avait demandé, puis j'avais proposé un projet, et je leur ai dit voilà, donc les Arabes n'ont pas été arrêtés nulle part, et donc on conquit toute l'Europe, et donc l'Europe est musulmane maintenant. C'était juste pour faire réfléchir sur le renversement des choses, quoi. Et il y a quand même des minorités catholiques qui sont un peu activistes, qui se font exploser dans les mosquées ou devant les mosquées, etc. C'était pour tout renverser. Je voulais justement montrer qu'un islam tolérant puisse s'installer, par exemple, sur la base du soufisme, et que ce soit les chrétiens qui soient les terroristes et tout ça. Ils ont refusé le projet. Ils ont dit, on ne vous trouve pas trop dans la merde.
Philippe Cadic avait imaginé que c'était les nazis qui avaient gagné. Hein.
Oui, c'est le maître du château, c'est une des chroniques plus célèbres. Hein. La plus célèbre. Et d'ailleurs, avec un twist, le final, finalement, il y a l'histoire aussi de raconter des histoires. Et ça n'a pas de fin, en fait.
Y a-t-il une autre question?
Mais le chronique, c'est un superbe genre, je trouve. Jérôme, tu pourrais t'en parler, parce que toi, tu as organisé le prix actuel, ça, de l'Uchronie.
Si on aime un petit peu l'histoire, c'est un genre merveilleusement riche, quoi.
En France,
parce qu'il y a un maximum de possibilités. Et voilà, il y a un jeu intellectuel qui dit des choses sur nous, qui est juste fantastique. Et en France, c'est un genre qui se développe plutôt pas mal. Quoi, plutôt
vite. En France, on peut se faire accuser de révisionnisme, comme ça m'est arrivé une fois. Le journaliste du Figaro qui me dit « Vous êtes un révisionniste !» Il est marqué roman du chronique en dessous, donc ça n'a rien à voir avec le révisionnisme. Hein. C'est vraiment une hypothèse différente. Un jeu d'hypothèses.
Bien, je vous propose de faire peut-être un saut quantique vers le buffet et vers les dédicaces. Merci aux intervenants, merci à la médiathèque, puis merci à vous, merci à Pierre et à Daniel. Merci.